Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Une jeune femme qui va chercher les ressources nécessaires pour avancer, pour tourner la page, pour mener à bien sa vie et ses responsabilités, une jeune femme qui incarne parfaitement la résilience féminine marocaine. On y va pour les détails tout de suite.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Soundous Moustarhim, bonjour.
Bonjour, comment vas-tu?
Bien, merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Heureuse de t'avoir, Soundous.
C'est un honneur pour moi, tu peux même pas t'imaginer.
Oh, tu es adorable, merci infiniment. Alors Soundous, une femme vraiment à plusieurs vies, d'ailleurs comme beaucoup de femmes que je reçois dans Femmes d'aujourd'hui, et je ne les choisis pas parce qu'elles ont plusieurs vies, mais je pense que la femme marocaine est très riche de résilience en fait.
Ah, totalement d'accord avec toi, c'est un constat que je me fais de plus en plus aujourd'hui.
Alors Soundous, toi, tu es au début de la trentaine et pourtant, tu as vécu des choses assez importantes au cours des 10 dernières années, tant au niveau professionnel que personnel. Tu as eu une carrière dans la finance, une très belle carrière dans la finance, que tu as décidé d'arrêter et te lancer dans autre chose. Qu'est-ce qui a été cet élément déclencheur qui t'a fait très vite? Pourquoi je dis très vite? Parce que, encore une fois, à travers les conversations que j'ai pu avoir, c'est souvent mi-trentaine, fin trentaine, début quarantaine que la remise en question se met en marche. Chez toi, ça s'est mis en marche avant 30 ans, justement.
Alors, je pense qu'on est un peu dicté par ce qui nous arrive dans nos vies, de l'enfance jusqu'à l'heure actuelle, jusqu'à présent, on va dire. C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'épreuves, de cheminement. J'ai eu un long cheminement déjà pour mon âge, donc j'ai 32 ans. Et j'ai du mal à constater par moi-même le degré de ces épreuves, parce que finalement, on n'a pas beaucoup de visibilité sur nous-mêmes. On en a souvent sur les gens, mais pas vraiment sur nous-mêmes. Mais je pense que par la force des choses, on s'adapte. Et par la force des choses, on vit certaines épreuves. Donc, moi, c'est vrai que j'ai fait le choix de me marier très, très jeune. J'ai pas de regrets aujourd'hui parce que je sais à l'heure actuelle qu'en me mariant jeune, je me suis pleinement concentrée à ma carrière et à mes études. Je le regrette pas aujourd'hui. C'est aussi comme ça que j'ai eu ma petite princesse Inaya qui est née. Donc finalement, on n'a jamais de regrets, mais que des belles choses qui sortent des épreuves. Mais c'est vrai que j'ai eu une relation très compliquée. Ensuite, un divorce compliqué lui aussi. Ensuite, une grossesse compliquée. Puis après, j'ai traversé la maladie. Donc ça, c'est ce qui m'a, je pense, grandement transformée aujourd'hui. C'est le fait que dans ce monde, on s'attache au matériel, à sa carrière, à l'ambition, à réaliser nos rêves. Et surtout quand on est jeune, on ne réalise pas que tout peut s'arrêter du jour au lendemain avec une maladie, parce que tout s'achète, mais pas la santé. Pas l'amour, mais pas la santé non plus. Et donc, je traverse une période très, très compliquée. Ma petite fille a 2 ans à ce moment-là. Et je vais subir une très, très lourde opération, très risquée. Et je me rends compte que du jour au lendemain, je peux ne plus être là. Et là, tu fais un peu une rétrospective sur ton passé. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que j'ai pris des bonnes décisions? Qu'est-ce que va devenir ma fille aussi, parce que je suis séparée déjà à ce moment-là et elle ne voit pas son père. Et donc, alhamdoulilah, j'ai une famille qui est très présente, mais c'est quand même, tu vas laisser ton enfant qui a 2 ans en plus, donc c'est vraiment très très compliqué à ce moment-là.
Alors, justement, grosse opération, gros souci de santé, ça a duré combien de temps?
Alors là, c'est de nouveau, je pense, une question de force mentale peut-être de la femme, justement, de la mère, parce que à ce moment-là, donc, on me prévoit une longue, longue, longue période de revalidation.
Convalescence, c'est
et
ça?
Et moi, de convalescence, exactement. Ouais. Et moi, très vite, j'ai cette rage de me dire, il faut que je m'en sorte. Il y a ma fille qui m'attend. Et il faut que ça aille vite, il faut que je marche, il faut que je puisse m'occuper d'elle à nouveau et que je m'en sorte. Et donc, ça va durer à peu près, on va dire, 3 mois entre le jour de mon opération et le jour où je suis de nouveau autonome avec ma fille à la maison. Cette période, elle a été très importante pour nous parce que mon opération se passe mal au début, très très mal. Entre la vie et la mort, je suis vraiment pas bien, je suis à l'hôpital, je baisse les bras et à un moment donné, je me dis même que ça se termine, tu vois. Mm. Alors que je suis mère et que ma fille passe avant tout, mais la douleur est tellement grande à ce moment-là, malgré les médicaments, que je baisse les bras et que je me dis stop, c'est fini, j'arrête. Et puis après, ben, t'as la force de la foi, je pense, et l'amour d'une mère qu'elle peut avoir pour son enfant, qui m'ont donné une claque. Et je me suis du jour au lendemain reprise. D'ailleurs, les médecins aujourd'hui encore ne savent pas ce qui s'est passé à ce moment-là pour que ma greffe prenne, parce qu'elle ne prenait pas. Et donc là, ça a pris. Et j'étais en chaise roulante, mais... J'ai fait de la kiné tous les jours, je me suis battue pour vite remarcher. Je ne sentais pas mes jambes, je remarchais déjà. Enfin voilà, il y a eu des choses assez incroyables que je peux expliquer aujourd'hui que par l'amour que j'ai pour ma fille et la confiance en Dieu aussi et en l'avenir. Et voilà, cette période-là, je pense que c'est celle qui m'a vraiment marquée et transformée sur ma vision de la vie, qui est la vie, elle est courte. Qu'est-ce que tu retiens de ta vie au final? C'est pas ce que tu as acheté, c'est pas ta carrière, parce que moi j'étais sur le point de mourir et la seule chose c'est j'espère n'avoir fait du mal à personne, j'espère que ma fille se souviendra de moi. Il y a cette notion de souvenir qui est curieusement importante à ce moment-là. J'espère qu'en fait les gens vont garder une belle image de moi. C'est un peu à l'image de ce qu'on essaye, enfin du bien et du mal, tu vois, qu'on nous inculque depuis qu'on est petit. Et j'ai essayé de prendre ma vie comme ça, après l'opération, de le prendre comme une seconde chance et de me dire, à partir d'aujourd'hui, chaque geste, chaque acte que je vais faire, il est important, parce que si demain je dois mourir, je dois pouvoir me dire que ma niya, donc mon intention dans tout ce que j'ai fait était bonne. Même si je fais des erreurs, même si je ne suis pas parfaite, même si je ne prends pas toujours les bonnes décisions, cette notion d'intention, elle était bonne. Elle était de bien faire les choses.
Mais pourquoi ça a été lâché? C'était quoi le problème avec le job?
Alors, donc moi, j'étais très, très carriériste. Je suis HPI, hein, je le précise, parce que c'est important dans cette manière de fonctionner dans mon cerveau tout le temps. Donc, c'était inné en moi, la logique, les mathématiques, etc. Donc, j'ai pu, malgré mon jeune âge, mener une très grosse carrière dans la finance. Je me suis retrouvée à 25 ans chef d'une équipe dans un grand hôpital ici en Belgique. Et donc, je suis rentrée, malgré mes croyances, malgré tout ça, dans ce cercle vicieux de toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et donc, aveuglément un peu, parce que je voyais moins ma fille, je vivais moins mon quotidien, donc tout tournait autour de mon travail et toujours gagner plus et être la meilleure et devenir la plus haute, la plus grande, etc. Et la première épreuve qui m'a changée, donc c'est la maladie, mais je travaillais toujours à ce moment-là. Et la deuxième épreuve que j'ai traversée, c'est que j'ai eu du harcèlement au travail dans la fin de ma carrière. Je subis du harcèlement au travail et tout s'écroule en fait, du jour au lendemain. J'ai jamais vécu ça de ma vie. J'ai toujours été appréciée pour mon travail, félicitée. C'était mon équilibre, c'était ma fierté, ce qui rendait fier mon entourage aussi. Et donc, du jour au lendemain, ma carrière s'arrête. C'est un an à peu près après mon opération. Et là, ça a été, la goutte d'eau, en fait.
Quel type de harcèlement, justement ?
Moral. Ouais. Pas sexuel pour moi. C'était moral. Ouais. Pour mon statut de femme, hein, justement. Donc, c'est un secteur très masculin, la finance. Et j'ai subi du harcèlement lié à mon statut de femme. Peut-être marocaine aussi, mais en tout cas de femme de manière très évidente. Moi, je ne connaissais pas ça, parce que jusqu'à là, en tout cas, dans ma carrière, on a toujours regardé mes compétences, mon intelligence, ce côté HPI très adulé. Hein, on s'imagine toujours que c'est génial d'être HPI. Et là, ma vie, elle a vraiment basculé, parce que quand dans ton couple, ça ne va pas, quand dans ta vie, ça ne va pas, ta santé, ça ne va pas. Moi, j'avais toujours ce travail, ce statut social de femme forte qui mène une carrière masculine aux yeux des gens, etc. Donc, c'était mon équilibre, en fait. Je pensais que c'était mon équilibre. À ce moment-là, je le pense. Et donc, ma carrière s'arrête du jour au lendemain.
Parce que tu décides d'y mettre fin ?
Parce que je décide que... Alors, heureusement, j'ai une aversion pour l'injustice. Et ce qui me rend non harcelable, on va dire. C'est-à-dire que si ça va trop loin, j'ouvre ma bouche. Je ne peux pas me taire. Et donc, j'ai fait toutes les démarches nécessaires à ce moment-là. Et dedans, ben, y avait le fait d'arrêter de travailler, en fait. J'ai arrêté du jour au lendemain à travailler. Et j'ai revendiqué le fait que j'avais subi quelque chose que je ne dois pas subir et qu'il fallait réparer ce dommage, en fait. Mais
certains pourraient se dire, si elle est, tu étais carriériste, ta carrière avant tout, tu as construit, et d'ailleurs c'était ton seul repère à ce moment-là, pourquoi avoir baissé les bras ?
Alors, je n'ai pas baissé les bras, j'entamais une guerre pour moi, une guerre pour revendiquer mon statut de femme qui travaille, qui est battante et qui mérite son statut. Et qui ne mérite pas ce qu'on est en train de lui faire. Hein. Donc, à ce moment-là, je ne baisse pas du tout les bras. Mais la différence, c'est que je ne peux plus aller travailler à ce moment-là. Donc, j'entame une procédure qui fait que je ne peux plus aller travailler. Je dois attendre, en fait, la suite légale, on va dire, de cette guerre que j'entame. Mais dans les faits, peu importe ce qu'on va te dire, peu importe la finalité, peu importe tout ça, les faits, c'est que du jour au lendemain, je ne travaille plus. Et c'est là que c'est important psychologiquement. J'ai beau me répéter toute la journée, oui, mais c'est provisoire, oui, mais c'est en attendant une décision. Ça ne change rien. Du jour au lendemain, je n'ai plus mon statut social. Du jour au lendemain, je ne vais plus travailler. Et ça, ça a été pour moi, mon monde s'écroule en fait. La seule base, enfin, que je pensais être ma base, je dis bien à chaque fois, je pensais être mon équilibre et je pensais être ma base parce que je découvre merveilleusement après que non. Mais j'avais construit, en fait, toutes mes émotions autour de mon travail. J'avais occulté les émotions du mariage, du divorce, de la maladie, même s'il y avait cette petite graine d'introspection qui était plantée en moi avec la maladie, la carrière gardait ce dessus, c'était ma base solide. Et là, donc, pour moi, je le vis comme ça, ça explose. Ça explose, j'ai ma fille encore, heureusement, qui m'oblige à me réveiller le matin, à la déposer à l'école, à rentrer à la maison. J'ai mon sport, heureusement. J'ai Instagram, heureusement, qui me garde cette connexion au monde. Je sous-estimais... mon réseau social à ce moment-là, mais je suis tellement reconnaissante de la chance que j'ai eue d'avoir ma communauté sur les réseaux sociaux dans cette période-là.
Alors, Sundus, justement, là, juste pour qu'on puisse comprendre, du jour au lendemain, voilà, tous ces piliers s'effondrent et le plus important à ce moment-là, c'était le boulot, parce que tu l'as dit, c'est ce qui te donnait ta position, c'est ce qui t'assurait aussi ton avenir et celui de ta fille, financièrement. Tu as la garde de ton enfant, tu l'élèves, tu viens de sortir d'une, d'une grosse maladie. J'ai envie de te dire comment tu étais à l'intérieur, en fait.
Eh bien, c'est là que la période qui suit ça est très intéressante. Enfin, très intéressante d'un point de vue psychologique, évidemment, pas sur le moment même, mais c'est là que j'explose. Je peux pas le dire autrement. J'explose. Aujourd'hui, je peux mettre des mots sur ce que j'ai vécu parce que j'ai fait une grosse thérapie. J'ai appris pendant ma thérapie qu'il y a HPI et HPE, haut potentiel intelligent, haut potentiel émotionnel. Les deux ont une grande hypersensibilité et ont, si tu veux, une haute potentialité au niveau intelligente et émotionnelle. Mais un I, c'est plutôt au niveau de sa logique, des constructions, d'analyse. Un E, c'est au niveau émotionnel. Ils ont les deux, tous les deux, mais un a, tu vois, l'un plus que l'autre. La grande différence entre les deux, quand HPE, il gère super bien ses émotions. Du coup, il a confiance en lui. Il se connaît parfaitement. Un HPI, il n'a pas du tout confiance en lui et il ne gère absolument pas ses émotions. Quelle est la méthode de gestion d'émotions d'un HPI? C'est qu'il traverse un divorce. Je dis « il », donc moi, évidemment. Je traverse un divorce. Comment doit agir une maman après un divorce? Elle doit s'occuper de sa fille. Elle doit trouver une solution pour la déposer, l'emmener à l'école. Elle doit faire ci, elle doit faire ça, elle doit faire ci. Comment doit agir une maman qui va rentrer se faire opérer? Elle doit organiser la convalescence qui va garder sa fille. Elle doit faire ci, elle doit faire ça, elle doit faire ça. Et en fait, on occulte
les émotions.
On ne sait pas les gérer. Et on agit en fonction de ce qu'on sait qu'on attend de nous et ce qu'on doit faire.
Mais je pense,
mais on se remplit d'émotions.
Pardon, sans doute, mais je pense que beaucoup de personnes agissent comme ça. Parce que des fois, en discutant justement avec d'autres femmes, et je dis, comment tu as fait sur le champ? Elle m'a dit, j'étais en pilotage automatique. J'ai dû faire ce que je devais faire.
Ouais. Oui, oui, bien sûr. Je pense vraiment que finalement, on est tous comme ça quand on a conscience de nos responsabilités.
Responsabilité, absolument. Face aux responsabilités, on zappe les émotions.
Exactement. Et je pense que là où peut-être qu'il y a une toute petite différence, c'est que ici, dans mon cas, je crois que c'est vraiment lié à mon HPI d'avoir emmagasiné autant d'années et autant d'épreuves différentes et autant de souffrances physiques, psychologiques différentes aussi. Et c'est ce qu'on m'a expliqué. On m'a expliqué que, du coup, ça se remplit. Et puis, un jour, ça explose. Et le jour où ça explose, c'est un drame total. C'est-à-dire que là, ce jour-là, j'ai sombré dans une dépression terrible.
Est-ce que tu te souviens du jour? Comment ça s'est passé?
Ça s'est passé progressivement. C'était le jour où j'ai arrêté de travailler. J'ai ressenti cette grosse injustice. J'ai pleuré. J'ai eu des crises d'angoisse. J'ai été chez le médecin directement. Et en fait, c'est la question existentielle de qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Tu sais, cette charge mentale qu'on peut avoir en tant que maman, de se dire je dois faire ça et ça et ça et ça et ça, puis il y a le côté administratif, et il y avait trop de choses. À ce moment-là, j'ai 31 ans et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Parce que là, j'arrive plus en fait. J'arrive plus à mettre un pied devant l'autre. Mais qui va payer l'appart? Qui va nourrir la petite? Qui va l'emmener à l'école? Et en fait, on trouve que les problèmes. À ce moment-là, on n'est plus orienté solution. Heureusement, on est plein de ressources. Et actuellement, j'ai beaucoup de projets en cours. J'ai une petite boîte de production où je crée de l'audiovisuel pour des personnalités publiques.
Donc, tu as laissé tomber la finance complètement?
Complètement. Complètement, et j'y retournerai plus jamais, vraiment. Ça a marqué quelque chose en moi de tellement négatif, et j'arrive à mener ma barque, grâce à Dieu. Grâce à Dieu, notre cerveau est plein de ressources, et donc quand on a vraiment envie et qu'on aime ce qu'on fait, on a plein de choses qui s'ouvrent à nous. Donc aujourd'hui, c'est un monde plutôt médiatique, audiovisuel, réseaux sociaux, et j'adore ça. Mais vraiment, j'aime beaucoup ce que je fais aujourd'hui.
Alors, une petite question rapidement avant de nous quitter, vraiment, si on peut répondre rapidement, si c'est possible. Alors, il y a deux écoles. L'école qui dit quand on veut changer de cap, il faut s'arrêter, passer du temps avec soi, réfléchir. Et ensuite, on peut avoir cette idée, savoir ce qu'on veut vraiment faire de sa vie, etc., et trouver la bonne issue. Il y a l'école qui dit, il ne faut pas mettre un pied dehors si on n'a pas déjà une bouée de secours.
Mm-hmm. Moi, je suis très pragmatique par rapport à ça. Il ne faut pas... On a des responsabilités et il faut pas se mettre en danger parce que se retrouver à la rue, c'est pas la solution idéale pour redémarrer. Si je dois parler de moi, c'est pour ça que je dis je ne regrette rien. J'ai fait 12 années de carrière dans la finance, j'ai pu acheter mon appartement, j'ai pu mettre ma fille à l'abri, ce qui m'a permis d'avoir cette année de transition pour prendre du recul. Et effectivement, c'est génial de pouvoir s'arrêter, prendre du recul et recommencer. Maintenant, ce n'est pas un conseil que je donne à quelqu'un qui n'a pas de quoi assurer ce recul et son année de réflexion. Parce qu'être dans des galères financières, ça n'aide pas à réfléchir.
Réfléchir, absolument.
On essaie juste de sortir la tête de l'eau et on ne prend pas de recul. Donc, c'est bien d'avoir un transat au bord de la piscine pour prendre du recul pour sa vie, mais pas juste de couler dans la piscine. Sinon, il faut essayer de nager moins vite et d'essayer quand même de trouver un autre horizon.
Parfait. Eh bien, Sundus Mostarhem, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Ben, merci à toi, c'était très agréable de t'avoir. Et merci pour l'accueil.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.